Place publique.
Le suicide d'Olivier Gagnat a bouleversé énormément de monde dans l'arc jurassien. Collègues, amis, journalistes, citoyens, tout le monde s'est retrouvé sous le choc lundi soir. L'association Stop Suicide également, qui collaborait beaucoup avec le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel. Mais l'association était également fâchée du traitement médiatique de cette affaire et craint un effet d'imitation dans les jours qui suivent. Nous en parlerons avec la coordinatrice de Stop Suicide, Sophie Lochet. Demain, la 90e fête de lutte du Jura bernois démarre à Tramelan. L'occasion pour nous de nous pencher sur ce sport national, traditionnel et populaire, un sport adulé en Suisse alémanique, parfois moqué en Suisse romande. On reviendra sur cette différence de perception et sur l'avenir de ce sport avec Jean-Philippe Clay, membre du comité d'organisation de la fête, et avec le président de l'association cantonale neuchâteloise de lutte suisse, Patrick Blanc. Nous parlerons également mobilité. On le dit tellement que ça devient une banalité, les gens sont de plus en plus mobiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les nouvelles technologies ne sont pas censées nous permettre de gagner du temps sur les déplacements? Le travail à domicile a le vent en poupe. Qu'en est-il? Vers quel modèle on se dirige? On en parlera avec un expert, Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité à l'EPFL, qui sera ce soir en conférence dans le canton du Jura.
Jusqu'à 19h, place publique. Cédric Adrovert.
Bonsoir. Il est des disparitions qui secouent toute une région. Celle d'Olivier Gagnat en fait partie. Lundi, nous apprenions en fin de journée la mort du chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion dans la population et chez les politiques, comme Alain Ribaud, le conseiller d'État en charge de la sécurité, qui s'est exprimé sur les ondes de RTN.
Je garderai de lui le souvenir d'une personne très investie dans son travail et qui avait cette qualité de réfléchir à ce qu'il faisait, à réfléchir au sens de l'action policière. Pourquoi est-ce qu'on entreprend telle ou telle action? Pourquoi est-ce qu'on développe des stratégies contre tel ou tel type de drogue, contre tel ou tel type de cambriolage, contre tel ou tel type d'activité délictueuse? Donc une réflexion, une grosse réflexion pour que tout ait un sens au fond, puis qu'on n'est pas juste sur terre pour faire les choses qui ne servent à rien. Et c'est cette image-là que je retiendrai d'Olivier Gagnat qui laisse un immense vide.
Olivier Gagnat occupait ses fonctions depuis janvier 2014. Avant ça, le policier a été commandant de la police cantonale jurassienne entre juin 2011 et décembre 2013. Le ministre Charles Juillard s'en souvient. Écoutez sa réaction lundi soir lorsqu'il venait d'apprendre la nouvelle.
Bon, écoutez, je crois que je suis complètement bouleversé d'apprendre effectivement le décès d'Olivier Gagnat, qui au fil du temps était devenu un ami, puisque c'est vrai que nous avons cheminé ensemble un bon bout, à la fois sur le plan professionnel, lorsque j'étais chef de la police judiciaire et que nous l'avions engagé à l'époque comme adjoint au chef de l'identité judiciaire, hein. Et puis ensuite, évidemment, comme chef du département de la police et qu'il avait dirigé à l'intérim la police jurassienne, nous avions des liens assez étroits et je suis vraiment dans l'incompréhension la plus totale.
Quel souvenir il va vous laisser ?
C'est le souvenir d'un type vraiment chaleureux, enthousiaste, intelligent, visionnaire, avec lequel il faisait bon discuter. On pouvait discuter de tout. C'était un type cultivé, extrêmement intéressant. Et c'est vrai que sa manière d'appréhender les problèmes dans leur globalité, eh bien, apportait toujours quelque chose au débat.
Le choc donc lundi, les hommages et surtout les questions. Pourquoi, comment ? Des questions qui ont trouvé de nombreuses réponses le lendemain. Dans un communiqué, la police neuchâteloise a confirmé le suicide et donné quelques détails comme la méthode qui a été relayée partout dans les médias ensuite. Le lendemain, l'association Stop Suicide contactait ces mêmes médias, dont nous d'ailleurs, pour faire part de sa préoccupation. Nous recevons ce soir sa coordinatrice, Sophie Lochet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes inquiète par la couverture médiatique du suicide d'Olivier Gagnat. Pour quelles raisons ?
En tant qu'association de prévention du suicide, c'est vrai qu'on se préoccupe toujours de savoir comment est-ce que les suicides sont racontés, relatés dans les médias, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un effet d'imitation ou d'incitation. Et en l'occurrence, le fait de mentionner la méthode et aussi de mentionner de façon répétée lors d'un suicide d'une personnalité publique, une personnalité à laquelle on peut s'identifier, ça fait un peu une conjonction d'éléments qui fait que pour nous, il y a un risque d'incitation et c'est pour ça qu'on a écrit aux médias pour leur dire notre inquiétude.
Cet effet d'imitation qu'on appelle aussi effet Werther, quel est son fonctionnement exactement ?
Alors l'effet Werther, en fait, donc il tire son nom du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, puis il y aurait eu une vague de suicides après la publication du roman. Et donc le mécanisme, en fait, c'est un mécanisme d'imitation, donc c'est l'idée que quelqu'un qui est fragilisé, qui est peut-être déjà dans un processus suicidaire, peut en fait être fragilisé d'autant plus ou imiter une méthode si elle est citée à plusieurs reprises. Donc il y a un effet d'imitation, puis en fait il y a l'idée d'un effet déclencheur pour quelqu'un qui est effectivement en crise et qui d'un coup peut s'identifier en lisant de façon répétée aussi, en entendant parler de suicide de façon répétée, également d'une façon romantique, d'une façon sensationnelle. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on peut jamais parler de suicide, puisque c'est important de pouvoir parler de ce sujet-là, mais c'est comment on en parle.
Cet effet, il y a des preuves récentes, il y a des études qui l'ont démontré.
Alors il y a de nombreuses études en fait qui ont été faites sur ce sujet-là, qui sont des études qui associent en fait le suicide d'une personne connue et puis l'augmentation du taux de suicide derrière. Alors il y a des ensembles d'études qui montrent qu'il y a une augmentation d'à peu près 2,5% du taux de suicide pendant le mois qui suit un suicide d'une personne connue. Je dirais que l'exemple le plus emblématique, c'est le suicide de Marilyn Monroe, qui avait suscité beaucoup de suicides d'imitation de jeunes femmes derrière. Et puis il y a des contre-exemples, notamment si on pense au suicide de Kurt Cobain. On a observé qu'il n'y avait pas d'augmentation forte et au contraire, il y avait eu beaucoup d'augmentation d'appels vers les lignes d'aide, par exemple. Donc selon comment aussi un suicide est relaté, il peut finalement servir un effet préventif en parlant des signaux d'alerte, en parlant des ressources d'aide qui existent, en ne donnant pas une image romantique du suicide.
Et donc la bonne méthode, en fait, c'est de parler de suicide, mais pas de donner de détails, si on vous comprend bien. C'est ça que vous préconisez ?
Alors, c'est ça qu'on préconise, effectivement. Alors, c'est pas seulement nous, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a produit, en fait, des recommandations aux journalistes et tout le milieu de la prévention. Donc, il y a plusieurs conseils qui sont notamment de ne pas mentionner la méthode, de pas insister sur peut-être le suicide dans le titre, de pas glorifier, de pas laisser entendre que c'est quelque chose de sans douleur. Et puis aussi de ne pas donner une seule cause, de ne pas tout de suite expliquer avec une cause unique les raisons d'un suicide. On sait qu'un suicide est toujours multifactoriel et toujours complexe.
Le fait de parler de suicide dans les médias, ça permet pas aussi d'enlever un tabou et justement de permettre à davantage de personnes qui vont mal de s'exprimer ?
Alors si, mais après il y a toujours différents espaces. Donc c'est vrai que on peut aussi parler de suicide en parlant de prévention. On peut aussi parler des personnes qui s'en sortent. On peut aussi parler de l'impact du suicide sur les proches. On peut parler des ressources d'aide. Donc je pense que selon comment on en parle, ça peut être effectivement très intéressant de parler de suicide dans les médias et ça peut être aussi même soulageant pour des personnes qui sont en difficulté. Mais ce qu'il faut essayer de se rendre compte, c'est qu'une personne qui est dans une crise et un processus suicidaire, elle va pas forcément entendre la même chose qu'une personne qui, entre guillemets, va bien et puis va prendre l'info comme une info parmi d'autres.
Un mot pour terminer, déjà sur Olivier Gagnat, peut-être vous avez collaboré avec lui sur plusieurs cas, c'est un de vos experts, quel souvenir il va vous laisser ?
Il va nous laisser le souvenir d'une personne qui clairement faisait une différence. Pour nous, ça a été aussi un choc. Et puis, je tiens à transmettre aussi toutes nos condoléances au nom de l'association à tous ses proches et tous ses collègues. C'est vrai que ça nous a touché beaucoup, beaucoup interpellé. Et puis, c'était une personne ressource. C'est une personne qui nous aidait beaucoup sur différents projets, qui nous donnait des informations et puis qui avait beaucoup d'intelligence et beaucoup de talent.
Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de suicide, essayons de parler de prévention. On a parlé de suicide dans l'émission, parlons de prévention. Pour terminer, si quelqu'un a des pensées funestes ou sent que dans son entourage quelqu'un va mal, quel est le bon réflexe à adopter ?
Alors le réflexe, je dirais de base, c'est vraiment observer, écouter, aller vers cette personne et surtout ne pas la juger. Ça peut être très difficile de demander de l'aide, ça peut être un petit peu long, donc il ne s'agit pas forcément de provoquer, mais par contre pouvoir être à l'écoute de cette personne et puis aussi être assez clair, c'est-à-dire si on a vraiment un doute, pouvoir dire directement « est-ce que tu as pensé au suicide ?» Donc écouter sans juger et puis aussi s'informer et connaître les numéros d'aide. Ça peut être difficile d'aider quelqu'un qui est dans la grande détresse, donc il ne faut pas hésiter à aller consulter en fait les numéros professionnels qui peuvent donner à la personne en détresse mais aussi à la personne qui l'aide des conseils. Donc je pense notamment au 143, qui est la main tendue, qui est une ligne d'écoute, qui est anonyme et gratuite. Et puis après, il y a les cas d'urgence quand on est vraiment très inquiet ou qu'on pense qu'une personne est en train de passer à l'acte, et ben on peut appeler le 144 qui serait l'ambulance, voire la police, le 117, en fait, puisque c'est eux les seules habilités à éventuellement pouvoir rentrer chez quelqu'un ou en cas de voilà, si on a vraiment un soupçon important.
Et on va remettre ces numéros et d'autres liens d'ailleurs sur notre site internet à la fin de cette émission. Merci beaucoup Sophie Lechat d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Place publique.
18h32, on fait le tour de l'actualité avec vous, David Sanchez. Bonsoir.
Bonsoir. Coup de tonnerre dans le ciel hospitalier neuchâtelois. La ville de Neuchâtel se retire du groupe de travail des hôpitaux. Dans un communiqué, le conseil communal a estimé que le processus mis en place et les compétences du groupe sont inadaptées aux tâches qui lui sont confiées. Il déplore notamment que le conseil d'État se décharge complètement sur les communes. La fusion du Haut-Vallon de Saint-Imier sera soumise au peuple le 24 septembre. Les habitants de Villeray, La Ferrière, Saint-Imier, Courtelary, Renon, Sonvilliers et Cormoret doivent se prononcer sur le principe d'une fusion. Les communes motivées à continuer le processus vont ensuite élaborer un contrat qui sera à nouveau mis en votation. La nouvelle commune de 10 500 habitants serait la plus grande du Jura bernois. Gabriel Voirol se lance dans la course à la mairie de Porrentruy. L'élu PLR a fait part de sa décision ce matin. Il dit vouloir poursuivre une action politique au sein de la commune, lui qui a déjà passé 8 ans au législatif et 13 à l'exécutif. Avec cette annonce, Gabriel Voirol met entre parenthèses une éventuelle candidature sous la coupole fédérale. Bien qu'il privilégie un mandat à l'exécutif de Porrentruy, il ne ferme pas pour autant la porte au Conseil national ou au Conseil des États. Les pilotes suisses sont restés discrets lors des essais libres du Grand Prix de France en Moto 2. Sur le circuit du Mans, Dominique Egerter a signé le 7e temps. Thomas Lutti a terminé loin des meilleurs, il est 17e. Meilleur temps pour l'Italien Lorenzo Baldassari. En Moto GP, l'Australien Jack Miller s'est montré le plus rapide. Côté ciel, demain le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses sont encore possibles par moment, notamment le long des reliefs. Les températures seront en hausse. On nous annonce jusqu'à 16 degrés en plaine, 11 degrés vers 1000 mètres. Prochaines informations à 19h. Très belle soirée.
Place publique.
Place publique, ça continue. Nous allons parler de mobilité dans un petit instant. Dans un monde de plus en plus globalisé, avec les nouvelles technologies, nous sommes de plus en plus mobiles. Mais quel avenir à cette logique? Quel changement pour nos enfants? Nous en parlerons dans un instant avec Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité à l'EPFL. Mais avant ça, bougeons dans un arc de cercle avec une culotte en toile de jute et luttons. Dès demain, la fête de lutte du Jura bernois démarre, une édition anniversaire, le 90e. Pour en parler ce soir en direct de notre studio de Marin, nous recevons d'abord le président de l'association cantonale neuchâteloise de lutte suisse. Bonsoir Patrick Blanc.
Bien le bonsoir.
Et un des membres du comité d'organisation de la fête de ce week-end, lutteur et entraîneur junior, Jean-Philippe Clay. Bonsoir.
Bonsoir,
Jean-Philippe.
Salut.
Voilà, bonsoir, tout le monde est réuni entre lutteurs, pas de lutte, on se parle aujourd'hui. Jean-Philippe Clay, première question pour vous, vous êtes par téléphone hein, sur place à Tramelan. Est-ce que tout est prêt en vue de cette 90e fête?
Alors, on est en train de régler les quelques petits détails, mais on est prêt. Et puis demain, à partir de 8h, les jeunes lutteurs pourront commencer de lutter à Tramelan.
Alors, donnez-nous quelques données. Combien de lutteurs, combien de spectateurs, qu'est-ce qui va se passer ce week-end?
Alors, pour demain, pour les jeunes lutteurs, on a 140 inscrits depuis les années de naissance 2000 à 2009. Le dimanche, on a 152 actifs inscrits dans 5 couronnées fédéraux, 10 couronnées cantonaux et une trentaine de couronnées régionaux. On espère quand même un millier, entre 1000 et 1500 spectateurs sur les deux jours.
Ça fait du monde. Patrick Blanc, c'est vrai que parfois on a de la peine à réaliser l'engouement autour de la lutte suisse. La fête fédérale rassemble 250 000 personnes. La finale de la Coupe du Monde de football et le Super Bowl peuvent se recoucher. Un Suisse sur 30 est présent. Comment vous expliquez ça?
Bon, il est clair que en Romandie, nous avons quand même moins de spectateurs et de personnes qui veulent faire de la lutte que par rapport à la Suisse allemande. Ça, c'est clair. Si on est en 2017, la grande fête en 2017, ça va être Rumspunnen, et là, vous aurez 15 000 spectateurs.
Comment on explique cette différence? À Neuchâtel, par exemple, vous sentez un engouement pour la lutte suisse?
À Neuchâtel, nous avons de bons lutteurs. Il y a 3 clubs. Le club du Val de Travers, le club des montagnes neuchâteloises et le club du Vignoble. Nous sommes grosso modo 80 à 90 actifs.
Vous, de votre côté, Jean-Philippe Clay, l'engouement pour la lutte suisse, particulièrement en Suisse alémanique, vous faites la différence, la Suisse alémanique et la Suisse romande, vous sentez une différence?
Oui, on sent quand même un petit peu la différence, parce que ouais, nous, le Jura Berne, on lutte sur Berne, et puis c'est clair que là, il y a quand même plus de monde qui est concerné, il y a quand même plus de clubs. On remarque quand même une petite diminution d'intérêt au point de vue des spectateurs quand ça se passe dans le Jura bernois. On prend pour exemple la fête d'Emmental qui a eu lieu à Heimenschwand dimanche passé, qui a attiré 6400 personnes. C'est clair, nous, on en a quand même un peu moins, mais l'intérêt est quand même là.
Vous êtes entraîneur, vos juniors, ils sont romands ou alémaniques?
Alors, on peut dire qu'il y a une petite partie qui est parfaitement bilingue. Et la majorité est quand même romande.
Donc des francophones, il y a une jeunesse, il y a de la relève francophone dans ce sport?
Bien sûr, il y a la jeunesse francophone. À l'époque, c'était surtout des enfants qui venaient des milieux agricoles, c'était les fils paysans, c'était la parenté des agriculteurs, ce qui est de moins en moins le cas maintenant.
Patrick Blanc, j'ai tapé dans un moteur de recherche bien connu sous actualité lutte suisse. J'ai rien trouvé depuis très longtemps, depuis presque août 2016. Alors qu'en tapant Schwingen, là je croule sous les articles. Donc clairement, on voit cette différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Comment attirer davantage de romands, à votre avis?
Alors le seul moyen, c'est que dans les écoles, on fasse la promotion. Il est clair que c'est pas toujours facile de le faire, car il faut du temps. Nos entraîneurs doivent aller dans les écoles, mais je crois que c'est par là que l'on passe. Et en premier lieu, c'est les médias qui doivent jouer leur jeu, venir nous dans les différentes fêtes, et puis en parler.
L'éducation dans les écoles, ça se fait déjà?
Oui, on a déjà des entraîneurs qui vont dans les écoles, mais c'est pas toujours facile, car il est évident que tout le monde est bénévole, et puis il faut prendre des jours de congé, mais ça se fait.
Quelle est la réaction des élèves?
Alors les élèves, il n'y a pas de problème, ils viennent, ils ont toujours, au départ, ils ont vraiment de l'envie. Dans les tout-petits, ça continue, mais sitôt qu'on arrive à un certain âge, les intérêts sont un petit peu différents.
Vous le sentez ça également, Jean-Philippe Clay?
Oui, ça c'est parfaitement la même chose chez nous. Nous aussi, on organise des animations, avec le lien du passeport vacances, on essaie aussi de faire connaître la lutte. On essaie de se vendre un maximum, mais c'est clair que c'est pas facile. On va dire sur une dizaine d'intéressés, si on reste un ou deux, c'est magnifique, ça vaut de l'or.
L'image parfois de ce sport est une image de sport du passé, que ce n'est pas un sport moderne. Ça, c'est un préjugé ou c'est quand même une réalité? C'est quand même très traditionnel comme sport.
Ça reste traditionnel, mais c'est vrai que maintenant, c'est un sport qui évolue avec son temps. Quand on regarde maintenant les lutteurs de pointe qui sont accompagnés de sponsors, d'entraîneurs physiques, de nutritionnistes, d'entraîneurs mentaux, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Heureusement, ça ne concerne pas tous les lutteurs. Hein, c'est quand même une minorité. La majorité, ça reste quand même des amateurs. On reste quand même dans la partie traditionnelle, mais il y a quand même un changement qui est en train de se faire à ce niveau-là.
C'est-à-dire le changement, ça se professionnalise, c'est ça que vous voulez dire?
Oui et non. On peut dire qu'il y en a une poignée qui pourrait revivre, mais on n'en est pas là, et heureusement.
Patrick Blanc, de votre côté, à Neuchâtel, vous avez combien de membres dans le club?
Alors, on a trois clubs, hein, donc à peu près, grosso modo, une centaine entre les espoirs et les actifs.
C'est quand même pas mal pour un canton roman, et pas un immense canton roman, une centaine de personnes.
C'est clair que c'est bien, c'est très bien. On est en constante évolution dans le bon côté, mais comme je vous dis, il faut pouvoir garder ces jeunes au moment du passage de la puberté.
Et c'est à l'adolescence que c'est compliqué. Le sport a un petit côté, une image parfois, même si c'est faux, une image un peu ringarde, vous ressentez ça?
Je ne crois pas. Ce qui est important, c'est que c'est comme dans tous les sports maintenant, il faut apprendre à souffrir. Avant, il y avait des lutteurs, il suffisait qu'ils soient puissants, grands, puissants, tandis que maintenant, celui qui ne s'entraîne pas journellement n'y arrive pas.
Journellement, ça veut dire quotidiennement?
Quotidiennement, tout à fait.
Ah oui, donc ça demande quand même pas seulement de sacrifices.
Ça, c'est clair. Si vous prenez les deux Mathias, que ce soit Sempar qui a été roi à Burgdorf ou bien Glarner Mathias qui était roi à Estavayer, ce sont des personnages qui s'entraînent plusieurs fois par jour.
Bon, alors on va vous donner un petit moment à l'un et à l'autre pour donner envie à ceux qui n'ont jamais vu de lutte suisse de se rendre à Tramelan ce week-end. On commence peut-être par vous, Jean-Philippe Clay. Qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi se déplacer à Tramelan si on n'a jamais vu de la lutte suisse?
Alors déjà, ce qui va être intéressant de voir, c'est demain matin, voir la relève, voir ces jeunes qui font leurs armes dans la sciure, ça c'est toujours rigolo, c'est intéressant à regarder.
Quel âge?
À partir de, ça va se jouer de 16 ans jusqu'à 8 ans.
Oui.
Et c'est réparti en 5 catégories, et puis bien entendu le dimanche, on a Sempar Mathias, le roi de la lutte de Berthoud. On a Stucky Christian, vainqueur du Kirchberg en 2008. On a Anderek Simon, ça c'est vraiment les trois principales têtes d'affiche. Et puis ça vaut quand même le déplacement d'aller voir les cracks qui se déplacent dans notre région pour la fête de lutte du Jura-Bernois.
Patrick Blanc, sans citer spécialement de nom, mais peut-être en parlant un peu plus du sport, qu'est-ce qui est intéressant quand on découvre la lutte suisse? Comment donner envie aux gens d'aller voir ce week-end?
Alors, ce qui est important, c'est de voir vraiment que les lutteurs se tirent à la même corde, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, on reste toujours des copains. Ce qui n'est pas le cas dans certains sports, et puis il n'y a quand même pas autant d'appât du gain que dans le football, par exemple.
C'est vrai que les valeurs sont importantes hein, en lutte suisse. Quelles sont-elles?
Alors, il est clair qu'on peut pas, on n'a pas le droit de faire de sales coups. Celui qui fait des sales coups est pénalisé, à la limite, il est discrédité.
Personne ne triche, jamais.
Oh, ça arrive quand même, hein. Il y a des tricheurs partout. Hein. Mais si on prend les cas de dopage, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de dopage que dans d'autres sports.
On rappelle que la 90e fête de lutte du Jura-Bernois se déroule demain et dimanche à la patinoire Auguste Raymond Arena et à la salle de la Marelle. À Neuchâtel, une fête en vue?
Alors, pour moi, on a les 9 et 10 juin à la Vue des Alpes. Tout la place de fête a été remodelée. Donc, je vous dis, il vous faut venir. Et là, vous allez voir passablement de choses. Après, au niveau roman, on a une grande fête qui est la fête romande à Chiètres, le 16 juillet. Il y a 2000 places assises, il y aura vraiment de très forts lutteurs, 8 invités qui sont tous des couronnés fédéraux, dont Mathias Glarner.
Merci beaucoup Jean-Philippe Clay, Patrick Blanc, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
Merci bien, une bonne soirée.
Et pour terminer cette émission, nous allons parler de mobilité. À l'invitation des Verts Jurassiens et du Parti Socialiste de Haute-Sorne, Vincent Kaufmann est en conférence ce soir à 20h au restaurant du Jura à Basse-Cour. Il est dans le train actuellement, en train d'arriver. Il est déjà en ligne avec nous. Bonsoir Vincent Kaufmann. Vincent Kaufmann.
Bienvenue chez Combox de
Suisse. Ah, nous l'avons perdu, visiblement, oui, nous l'avons perdu, ça a coupé. Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité à l'EPFL, on va essayer de le rappeler, c'est l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, notamment un ouvrage qui s'appelle « Les paradoxes de la mobilité, bouger et s'enraciner », publié en 2008. Vincent Kaufmann, vous êtes là?
Je suis là.
Voilà, vous voici.
Il y a eu quelques petites coupures.
Ça arrive et ça va peut-être se reproduire une fois, on n'espère pas, mais c'est possible. Merci en tout cas d'être avec nous par téléphone. Avec vous, on va parler de cette conférence de ce soir et puis de la mobilité. Vous formulez dans le livre qu'on vient d'évoquer l'hypothèse d'une société de plus en plus mobile. C'était en 2008. Presque 10 ans plus tard, est-ce que c'est toujours le cas?
Alors, je crois que oui, heureusement ou malheureusement, ça dépend quelle vision on a sur ce phénomène, mais ça s'est beaucoup accentué, avec en Suisse en particulier une augmentation de ce qu'on appelle la pendularité de longue distance, c'est-à-dire le fait de travailler très loin de son domicile. Pour vous donner un chiffre, on a à peu près 10% de la population active actuellement en Suisse qui travaille à 50 km de son domicile ou plus.
Mais ça, c'est assez difficile à comprendre parce que la technologie d'aujourd'hui, elle nous permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde très facilement, en vidéo. On parle aussi beaucoup de télétravail. Tout ça, c'est du vent?
Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, on utilise toutes ces technologies pour permettre finalement de se déplacer plus loin, plus vite, plus longtemps. Si on prend l'exemple, par exemple, des déplacements domicile-travail, beaucoup de gens utilisent le train en Suisse pour aller travailler. Et dans le train, ils commencent à travailler. Et donc ils utilisent leur temps pour une autre activité. Et alors ça, c'était beaucoup plus difficile il y a encore 10-15 ans quand on n'était pas tous équipés, ou beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore équipés de téléphones portables, de tablettes et d'ordinateurs portables. Mais c'est clair que alors ça, c'est toujours difficile d'imaginer comment des technologies vont être utilisées par les personnes, mais là on voit qu'en fait elles sont utilisées pour essayer de combiner le plus possible on pourrait dire les frictions spatiales et temporelles de nos modes de vie et les repousser. Quand vous trouvez du travail à Berne et que vous habitez, Zurich ou Bâle, en 2017, pratiquement, vous ne déménagez plus, vous devenez pendulaire, et ça, on le voit très bien dans les études.
Cette mobilité qui s'accentue, jusqu'ici, on avait l'image d'une jeunesse mobile, mais finalement, des gens qui finissaient par s'installer quelque part, s'enraciner. Ce sera encore le cas demain, selon vous ?
Mais oui, parce que je pense qu'elle est là, d'où le titre de mon ouvrage, Les paradoxes de la mobilité, qui soit dit en passant, vient d'être réédité. Là, on a sorti une troisième édition qui a été actualisée il y a quelques mois. Mais ce qu'on voit, c'est que les Suisses et plus généralement les Européens sont de plus en plus sédentaires. En Suisse, on n'a jamais aussi peu déménagé entre régions que maintenant, depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que c'est un petit peu le corollaire du fait qu'on se déplace beaucoup au quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si on s'était enraciné, qu'on avait de la peine à finalement se déraciner de l'endroit où on a ses relations sociales, où on a ses attaches, pour aller s'enraciner ailleurs. Et dans ce sens-là, il n'est pas sûr qu'on soit si mobile que ça.
Il y a un autre aspect en lien avec la mobilité, c'est l'aspect social qui est également important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des injustices, des inéquités en lien avec la mobilité et ses coûts ? C'est un phénomène qui existe ?
Oui, alors il y a beaucoup d'inégalités et elles sont pas seulement liées à l'accès aux moyens de transport. Il y a bien sûr des inégalités liées à l'accès aux moyens de transport, mais il y a aussi des inégalités liées au projet de mobilité, à ce qu'on envisage, sachant que la mobilité est quelque chose qui est valorisé dans la société. Et il y a bien des professions aujourd'hui qui, d'une certaine manière, impliquent cette mobilité. Donc si vous y répondez favorablement, vous avez plus facilement de l'avancement dans votre carrière. Si vous refusez la mobilité, comme par exemple si vous travaillez dans une entreprise internationale et qu'on vous propose une promotion mais qui est assortie d'un déménagement dans un autre pays pendant un an et que vous refusez, ben ça risque de bloquer votre carrière. Donc il y a un mécanisme effectivement qui véhicule en fait des inégalités importantes parce que évidemment, pouvoir accepter ce genre d'offre ne dépend pas que de la personne, mais dépend de sa situation. On vit pas dans un univers qui est complètement fluide et où on est complètement libre de tous nos choix.
La mobilité qui donc peut servir aussi parfois de pression. Il y a quand même des paradoxes, c'est vrai, autour de cette mobilité, entre l'enracinement et la mobilité, c'est une chose, on en a parlé tout à l'heure, mais également sur les tendances, parce qu'on parle actuellement beaucoup de mobilité douce, les zones piétonnes se multiplient, l'avenir sans voiture, particulièrement dans les centres urbains, vous y croyez ?
Oui, moi j'y crois et je pense qu'on n'en est finalement pas très loin quand on regarde les statistiques là qui sont même sorties très récemment, l'analyse du national du micro-recensement transport de 2015, on voit qu'on a une tendance à l'accroissement des mobilités douces, qu'on a une diminution du passage du permis de conduire chez les jeunes, qu'on a aussi une diminution de la possession d'automobiles parmi les ménages urbains. Et ça, c'est quand même une tendance qui commence à être relativement lourde. Et alors, ce qu'on peut craindre, par contre, c'est qu'on ait une espèce de fracture spatiale en Suisse à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y ait des territoires qui soient finalement débarrassés de l'automobile, qui soient essentiellement des territoires urbains. Et puis qu'on ait une deuxième Suisse qui, finalement, est beaucoup moins bien reliée et dont le territoire implique ce qu'on appelle en jargon la dépendance à l'automobile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas trop développer des programmes d'activité et une vie quotidienne sans avoir accès à la voiture parce qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Et là, je pense qu'il y a peut-être un combat politique, notamment pour les régions périphériques. Et puis, il y a peut-être un danger aussi pour la cohésion de la Suisse.
Les voitures qui disparaissent, elles sont remplacées par quoi ? Par les transports en commun ? Par des voitures autonomes ? On en parle de plus en plus aussi ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas encore remplacées par des voitures autonomes, puisque la voiture autonome ne circule pas encore. Mais quand on voit que des anciens utilisateurs de l'automobile passent volontiers à la marche, en fait. C'est le plus gros report qu'on a. La marche, lorsque finalement les aménagements sont appropriés, c'est la flânerie, ça peut être quelque chose de très agréable, c'est peut-être un temps à soi dans la vie quotidienne qu'on peut retrouver. Puis c'est peut-être l'exercice physique aussi qu'on n'a pas forcément le temps toujours de caler dans des agendas qui sont parfois un petit peu chargés. Donc, il y a une conjonction comme ça de facteurs qui font que la marche est plus attrayante.
Comment ça s'explique ça ? Parce que c'est un petit peu étonnant. On dit que la société est de plus en plus mobile, il faut aller de plus en plus vite, être à plusieurs endroits en même temps. Et en même temps, on veut marcher de plus en plus. C'est étrange.
On a peut-être besoin parce qu'on est... En fait, on se déplace de plus en plus, mais sans doute on bouge de moins en moins sur le plan physique. Et donc, il y a parfois comme ça des besoins plus physiologiques hein, qui se font jour et qui expliquent en partie ce rebond de la marche.
La voiture autonome, vous l'avez dit, elle n'est pas encore là, mais elle arrive.
Oui, tout à fait. Je suis moins optimiste. Je suis moins catégorique que des grands industriels qui la voient, qui disent on sait la fabriquer et dans 5 ans elle est sur nos routes. Moi, je pense qu'elle pose d'énormes problèmes en fait de cohabitation avec les autres moyens de transport. Elle nécessite aussi pour pouvoir circuler, notamment dans des milieux urbains, des investissements assez importants de la part des pouvoirs publics. Elle sera peut-être là dans 25 ans, raisonnablement.
Ah oui, vous voyez effectivement pas seulement plus loin que Tesla, pour ne citer que cette marque-là.
Oui, oui. Non, mais Elon Musk, il est déjà sur la Lune, presque.
C'est ça.
Voilà.
On parle quand même...
Je pense que c'est tout un discours aussi. Hein. Je pense que, voilà, faut peut-être garder un petit peu de distance.
On parle de grands changements quand même lors des prochaines années. Alors la voiture autonome, c'est peut-être pour du plus long terme que ce qu'on peut croire, mais on a évoqué tout à l'heure les centres urbains, la différence entre les régions périphériques et les grandes villes. À votre avis, les politiques et les autorités sont prêts à affronter ça aujourd'hui ?
Alors, moi je crois, si on prend par exemple les dossiers chauds en matière de politique nationale en Suisse, notamment en lien avec l'Union européenne ou les gros dossiers de politique intérieure, il y a quand même beaucoup d'affaires de mobilité et de transport. Et je crois que c'est vraiment... On le voit de différentes manières. C'est la libre circulation, c'est Erasmus, c'est la qualité des chemins de fer, c'est finir le réseau autoroutier avec Forta, etc., etc., j'entends. Je pense que c'est un thème qui est absolument central et qui a pris de l'importance ces dernières années. Et je ne pense pas que ça va changer.
On reste quand même beaucoup sur l'opposition route versus transport public. Il me semble qu'on est quand même un petit peu moins dans une perspective à long terme, non ? Vous ne ressentez pas ça ?
Oui, tout à fait. Bon, disons, moi, ce que je vois, et ça, j'essaye de le dire dans la dernière édition des paradoxes de la mobilité, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de peine à identifier un utilisateur des transports publics qui n'utiliserait que les transports publics et un utilisateur de la voiture qui prendrait jamais les transports publics. Les pratiques se sont beaucoup mélangées, ce qui fait que finalement, il est de plus en plus difficile, je crois, de défendre l'idée qu'il y a un intérêt d'automobiliste comme une personne qu'on peut identifier. L'automobiliste, il est automobiliste de plus en plus par situation. Voilà. Il est parfois automobiliste, parfois autre chose. Et ça, je pense qu'effectivement, le débat politique est encore resté très figé sur ces anciennes figures de mobilité qui sont associées à des moyens de transport. Et voilà, c'est peut-être une chose qui va se recomposer parce qu'il y a bien un moment où ça va devenir flagrant que finalement, là, on ne peut pas penser la mobilité de cette manière-là.
On l'a dit, vous êtes en conférence ce soir. De quoi allez-vous parler exactement ?
Je crois que je vais m'entretenir de choses qu'on a commencé à aborder lors de cet entretien. Et puis, on va aussi un petit peu parler du futur.
Et le futur, c'est quoi ?
Le futur de la mobilité. je pense que peut-être que le futur de la mobilité sera davantage fait de rupture que de continuité, même si on suit les projections en matière de mobilité développées par les offices fédéraux compétents, on est plutôt dans une vision de continuité. Moi, je pense qu'on peut sérieusement le mettre en doute. C'est une des choses que je voulais proposer de débattre ce soir.
Eh bien, c'est à 20h au restaurant du Jura à Basse-Cour et c'est ouvert à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée, bonne conférence.
Merci beaucoup, au plaisir.
Et c'est ainsi que se termine cette émission et cette édition de Place Publique que vous pouvez d'ici quelques minutes réécouter en intégralité sur notre site internet. L'émission, elle revient la semaine prochaine, même heure, même endroit, autre présentateur, c'est Gabriel Devecq qui sera de retour. Bonne soirée à tous et bon week-end.
Place Publique.